Vous écoutez, on lit pour vous.
Les effets des incendies de forêt sur la végétation. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 juin 2025 dans La Presse. Est-ce que la fumée des incendies de forêt lointains nuit à la végétation? Demande un lecteur, Claude. Dans certains cas, elle peut être plutôt bénéfique, selon le spécialiste en écologie forestière Christian Messier, professeur et chercheur à l'UQAM. Quand il y a de la fumée, la lumière du soleil est diffusée, explique M. Messier. Ça signifie qu'elle arrive au sol de plusieurs directions différentes au lieu d'arriver par le haut seulement. Pour certaines espèces d'arbres d'ombre, ça fait arriver plus de lumière au total aux feuilles, donc ça améliore la croissance. C'est la même chose pour certaines cultures comme le maïs, où les feuilles du haut font de l'ombre aux feuilles du bas. En revanche, les plantes qui bénéficient le plus du soleil, comme les tomates, peuvent avoir une croissance moins rapide, ce qui se produit aussi lors des étés particulièrement nuageux. La fumée peut aussi entraîner deux autres phénomènes positifs et un autre négatif. Poussière et carbone. Commençons par les mauvaises nouvelles. Dans les forêts, prairies et champs non touchés par l'incendie, mais tout de même situés relativement près, la poussière de la fumée peut bloquer les pores des plantes et empêcher les échanges de gaz, indique Christian Messier. Cela empêche aussi la photosynthèse, qui fait croître la plante à partir du CO2 atmosphérique et de la lumière du soleil. Mais cet effet est limité à une distance de quelques dizaines de kilomètres. Les incendies de forêt actuels en Saskatchewan et dans le nord du Québec risquent donc peu d'affecter la végétation dans la vallée du Saint-Laurent. Un autre phénomène, dévoilé en mars dans la revue Plant and Soil par des chercheurs chinois, permet aux plantes de se nourrir directement du carbone présent dans la fumée. Le carbone est absorbé par les racines, précise le chercheur. Quand j'ai vu ça, j'étais sceptique, mais c'est une étude solide dans une très bonne revue. Cette absorption du carbone de la fumée par les racines s'observe à une plus grande distance des feux que l'effet sur les pores des plantes, mais à quelques centaines de kilomètres au maximum, selon M. Messier. Les incendies en Saskatchewan n'ont donc pas eu d'effet sur la croissance des plantes de la vallée du Saint-Laurent. Mais certains incendies de forêt relativement méridionaux au Québec, ces dernières années, ont pu les affecter. L'effet Karikine. Le phénomène positif qui se produit sur les plus grandes distances est l'effet d'une molécule appelée carricine, présente dans la fumée. Les carricines envoient à certaines plantes, surtout des graminées, le signal de germer, dit Christian Messier. Comme elles sont émises lors des incendies de forêt, ces plantes ont l'occasion de pousser sans l'ombre des arbres. Les carricines ont été découvertes en 2004 par des chercheurs australiens qui leur ont donné un nom dérivé du terme « fumée » dans la langue autochtone Noongar. Bénéfices sur les algues. La fumée affecte aussi les algues, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Scientific Reports. Les algues sont plus productives dans les couches supérieures des lacs et moins dans les couches inférieures, explique Facundo Scordo, biologiste à l'Université du Nevada, qui est l'auteur principal de l'étude. La fumée bloque la lumière pour toutes les algues, mais à la surface. Il y a aussi moins de rayons ultraviolets qui détruisent les algues. Donc, l'effet net à la surface est positif pour la quantité d'algues. La fumée des incendies de forêt réduit la quantité de rayons UV provenant du soleil. Cela réduit les risques de coups de soleil pour les humains, mais aussi pour les plantes, les arbres et les algues qui sont vulnérables aux brûlures. Note Christian Messier. En savoir plus, source, Université du Nevada. 62 jours, nombre de jours où les lacs des États-Unis et du Canada ont été affectés par les incendies de forêt en 2024. C'était Les effets des incendies de forêt sur la végétation. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 juin 2025 dans La Presse.
En savez-vous assez sur l'AVC? Un texte commandité, paru le 7 juin 2025 dans La Presse. À l'exception des signes à reconnaître pour détecter un accident vasculaire cérébral, AVC, José Boudreau et Louis-Philippe Rivard en savaient très peu sur le sujet. Quand on est en santé, on ne pense pas à ça, dit l'animatrice, qui a subi un premier AVC il y a près de 10 ans, alors qu'elle était en pleine forme. Juin est le mois de l'AVC. Le couple porte-parole de Cœur plus AVC vous invite à démystifier les croyances populaires les plus courantes au sujet de ce problème de santé à l'aide de ce jeu questionnaire. 1. Les bébés, les enfants et les jeunes adultes ne peuvent pas subir un AVC. Mythe. Bien qu'environ 80% de tous les AVC se produisent chez les personnes de 60 ans et plus, les bébés, les enfants et les jeunes adultes ne sont pas à l'abri pour autant. Selon une récente étude financée par Cœur plus AVC, un AVC sur 20 au Canada touche une personne de moins de 45 ans. De plus, tous les jours, un bébé subit un AVC et plus de 10 000 enfants vivent avec ses séquelles. José est la preuve qu'un AVC peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Elle était en santé et dans la quarantaine au moment de son premier AVC. On ne pensait pas que ça pouvait arriver à cet âge-là, confirme Louis-Philippe Rivard. Le saviez-vous? Pour un bébé, le risque de subir un AVC est à son plus élevé durant ses premières semaines de vie. 2. Les cas d'AVC sont en hausse au pays. Réalité. Les cas d'AVC sont bel et bien en hausse, d'une part parce que la population canadienne est vieillissante, d'autre part en raison du nombre croissant de jeunes adultes qui présentent certains facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète et un taux élevé de cholestérol. Néanmoins, le taux de survie des personnes touchées est plus élevé qu'auparavant. Louis-Philippe Rivard dit « Grâce à la recherche, les diagnostics se font plus rapidement et les traitements s'améliorent constamment. Au moment de son AVC, José a eu la chance d'avoir une intervention qui n'existait pas quelques années auparavant. » Le saviez-vous? À l'heure actuelle, un AVC se produit environ toutes les 5 minutes au pays. Même si moins de gens en meurent, il se classe encore au 4e rang des principales causes de décès au Canada. 3. Certaines maladies du cœur peuvent accroître le risque d'AVC. Réalité. Puisque le système vasculaire relie le cœur et le cerveau, l'AVC est intimement lié à la santé du cœur. Certaines maladies, comme l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies congénitales et la fibrillation auriculaire, peuvent augmenter, parfois de manière importante, le risque de développer une obstruction d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Louis-Philippe Rivard explique. L'AVC de José a été causé par un foramen ovale perméable, soit un trou entre les deux oreillettes du cœur. Heureusement, elle a pu subir une chirurgie non-invasive pour boucher le trou. 4. Il est malheureusement impossible de prévenir un AVC. Mythe. Bien manger, pratiquer un sport, limiter sa consommation d'alcool, ne pas fumer. Les saines habitudes de vie jouent un rôle crucial dans la prévention de l'AVC. À preuve, les recherches montrent que l'adoption d'un mode de vie sain pourrait permettre d'éviter jusqu'à 80 % des cas d'AVC précoce. Toutefois, il existe certains facteurs de risque sur lesquels on ne peut exercer aucun contrôle, comme l'âge, le sexe et les antécédents familiaux. José Boudreau dit « Bouger et bien manger a toujours été important pour moi. C'est important pour être en santé et pour réduire son risque de maladie, mais ça a aussi aidé à mon rétablissement. » Le saviez-vous? La pollution de l'air et le stress s'ajoute également aux facteurs de risque, et de nouvelles données probantes semblent indiquer que les jeunes femmes présentent un risque accru de subir un AVC par rapport aux hommes du même âge. 5. Plus les gens seront en mesure de reconnaître les signes d'un AVC, plus nous sauverons des vies. Réalité. Quand un AVC survient, chaque seconde compte. Le fait d'agir rapidement en composant le 911 dès qu'un signe est reconnu peut donc contribuer largement à un rétablissement optimal chez la personne touchée. Une ambulance amènera la personne à l'hôpital le plus proche qui offre des soins d'urgence en cas d'AVC. Tout le monde gagne donc à savoir reconnaître les signes de l'AVC. Pour les mémoriser facilement, il suffit de penser à l'acronyme VITE. Visage, est-il affaissé? Incapacité, à lever les deux bras normalement? Trouble de la parole, trouble de prononciation? Extrême urgence, composez le 911. Louis-Philippe a tout de suite reconnu les signes vite, comme dans la publicité de Cœur Plus AVC. J'ai été très chanceuse. Il a réagi vite, 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 se souvient José Boudreau. Le saviez-vous? Le tiers de la population canadienne ne connaît toujours pas les signes les plus courants de cette urgence médicale. C'était, en savez-vous assez sur l'AVC, un texte commandité paru le 7 juin 2025 dans La Presse.
Un hôpital de la dernière chance pour oiseaux amochés, un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 1er juin 2025 dans La Presse. Bon an, mal an, environ 2500 oiseaux sauvages blessés ou orphelins, représentant plus de 100 espèces différentes, trouvent refuge à Hudson. Si tout se passe bien, ils retrouvent leur habitat naturel après un séjour au nichoir, un organisme unique en son genre dans la grande région de Montréal. Les attaques de chats et les collisions avec des fenêtres, c'est extrêmement fréquent. Ce sont les deux principales causes de blessures chez les oiseaux, explique Élise Laferrière, biologiste et coordonnatrice à l'éducation au nichoir, un organisme sans but lucratif qui a accueilli et soigné près de 50 000 oiseaux depuis 1996. Après une collision avec une fenêtre, un oiseau, s'il n'est pas mort sur le coup, aura certains symptômes qui ressemblent à ceux d'une commotion cérébrale chez l'humain, précise la biologiste. On va voir des symptômes neurologiques, des pertes d'équilibre et de l'enflure au niveau de la tête. Il se retrouve aussi avec des ulcères au niveau des yeux. C'est très fréquent. Il faut qu'on les traite rapidement parce qu'ils peuvent devenir aveugles à cause de ça. À cette liste s'ajoute la dislocation des épaules après une collision avec une fenêtre. Seulement la moitié des patients vont survivre après avoir reçu les soins prodigués par l'équipe du nichoir. Jusqu'à 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année en Amérique du Nord après avoir heurté une fenêtre, selon diverses études scientifiques. C'est que les oiseaux ne perçoivent pas le verre comme un obstacle, y voyant souvent le reflet de l'environnement avoisinant où ils croient pouvoir voler. Le 22 mai 2025, une centaine d'oiseaux sont hospitalisés au nichoir au moment de la visite de la presse. Élise Laferrière nous fait visiter les volières où les oiseaux entament la dernière étape de leur convalescence avant d'être relâchés dans la nature. La plupart des volières en question sont de forme hexagonale, afin de favoriser le vol des oiseaux, indique Madame Laferrière. Ces oiseaux-là, quand on les a en réhabilitation, c'est super important qu'ils passent un bon moment dans la volière pour reconstruire leur méthode de vol, insiste-t-elle. Il faut qu'ils soient en excellente condition. On ne va pas relâcher un oiseau qui ne vole pas. Certaines espèces peuvent bien cohabiter dans la même volière. Dans l'une d'elles, on trouve un gros bec errant, un chardonneret jaune, un merle d'Amérique et un oriole de Baltimore, facilement reconnaissable avec sa robe orange. Le gros bec et le chardonneret ont eu des collisions avec des fenêtres, signale la biologiste. Certaines volières sont adaptées pour des espèces bien particulières, comme les pics maculés. Pour Sphyrapicus varius, son nom scientifique, la cohabitation n'est guère envisageable. Ce sont des oiseaux extrêmement territoriaux, surtout entre mâles. On peut seulement jumeler une femelle avec un mâle, précise notre guide. Dans ces volières, les parois amovibles sont constituées de troncs d'arbres dans lesquels les pics peuvent percer des trous avec leur bec. Quand le mur est détruit, il peut être remplacé. Ces oiseaux ne se laissent pas photographier facilement, comme le constate d'ailleurs le photographe de la presse. Ils sont tout le temps en mouvement. Ils sont très actifs. Celui-là n'est pas un client facile, fait remarquer Élise Laferrière en observant les efforts du collègue Olivier Jean pour capturer une image du pic maculé. Au début du mois de mai 2025, le nichoir a reçu une trentaine de pics maculés qui avaient tous eu des collisions avec des fenêtres. Ça arrive chaque année à leur période de migration. Ils traversent Montréal et à la fin avril, on commence à recevoir plein de pics. Tombés hors du nid. À l'intérieur du bâtiment principal, on trouve la pouponnière où sont hébergés les plus jeunes qui ont été trouvés la plupart du temps hors du nid. Ce jour-là, de petits moineaux et des étourneaux sont nourris à la seringue avec un mélange spécial fabriqué sur place. Mais attention à ne pas trop les habituer à la présence des humains. Pour certaines espèces, comme les corvidés, l'équipe doit d'ailleurs faire preuve de beaucoup d'imagination. L'an passé, on a eu des bébés corbeaux et on devait se costumer pour les nourrir. On mettait une grande cape noire et une visière pour cacher notre visage. On leur donne de la nourriture et ils associent alors les humains à la nourriture. Et ça va les mettre en danger une fois relâchés, explique Élise Laferrière. Pendant l'été, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas au nichoir, qui accueille en moyenne jusqu'à 40 oiseaux par jour. En 2024, l'équipe a reçu une centaine de jeunes goélands lors d'un épisode de canicule au début du mois de juin. Ils ont sauté du toit d'un bâtiment industriel où ils se trouvaient, tellement c'était rendu trop chaud, résume Madame Laferrière. Le déclin du martinet ramoneur. Dans un contexte où plusieurs espèces d'oiseaux connaissent un déclin important, l'équipe du nichoir constate, elle aussi, une diminution des hospitalisations pour des espèces menacées, comme le martinet ramoneur. En 2018, l'équipe a hébergé 24 individus, mais n'en a reçu que 4 en 2024. Rappelons qu'entre 1970 et 2021, la population canadienne de martinets ramoneurs a chuté de 88%. C'était un hôpital de la dernière chance pour oiseaux amochés, un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 1er juin 2025 dans la presse.
Le Québec tourne massivement le dos à Tesla. Un texte de Fabien Deglise paru le 22 mai 2025 dans Le Devoir. La rupture entre le Québec et la compagnie américaine Tesla du multimilliardaire Elon Musk semble bel et bien consommée. Les immatriculations de ces voitures électriques ont en effet connu une chute spectaculaire d'environ 90% lors des trois premiers mois de 2025, comparativement au dernier trimestre de 2024, selon des données inédites obtenues par Le Devoir auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, SAAC. Ce recul des immatriculations de véhicules Tesla suit de près la montée fulgurante et controversée de l'homme d'affaires sur la scène politique américaine lors des trois premiers mois de la nouvelle présidence de Donald Trump, mais aussi la fin des programmes d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique des gouvernements du Québec et du Canada. Il s'inscrit toutefois dans un marché automobile globalement en hausse au pays, où les ventes ont augmenté de plus de 9,4% en mars 2025, comparativement à la même période en 2024, malgré l'incertitude économique induite par ce même Donald Trump, selon Statistique Canada. Certes, le monde du véhicule électrique a dû composer avec une baisse de 45% des ventes durant ce même mois, indique l'agence canadienne, mais cette chute est toutefois bien moindre que celle qui affecte le seul constructeur Tesla au Québec et ailleurs dans le monde. Au total, les Québécois ont fait immatriculer 524 véhicules Tesla, tous modèles confondus, au premier trimestre de 2025, soit 4500 de moins que lors des trois derniers mois de 2024, mais aussi le niveau le plus faible depuis 2 ans. Entre le début de l'année 2025 et la même période de l'année précédente, la chute des immatriculations pour ces véhicules est tout aussi radicale, moins 87%, selon les données de la SAAC. La désaffection des consommateurs pour la célèbre marque américaine suit une tendance mondiale et une baisse des ventes planétaires depuis le début de l'année, qualifiée de « plus importante depuis l'été 2022 », dans un récent rapport de la Deutsche Bank. En avril, les immatriculations de Tesla ont également chuté de 60% en France, et ce, dans un marché de la voiture électrique qui stagne là-bas. L'incertitude économique et l'image du patron de la marque, Elon Musk, ont été évoquées pour expliquer ce recul important. Politisation néfaste. Il y a quelques semaines, le multimilliardaire a annoncé à ses investisseurs son intention de s'éloigner de la scène politique et, surtout, de la direction du département de l'efficacité gouvernement, DOJ, pour reprendre en main les affaires de Tesla, dont l'action a chuté de 45% durant ses premiers mois à Washington. Avec le retour du populisme à la Maison-Blanche, l'homme d'affaires et promoteur depuis des années de théories complotistes sur le réseau X qui lui appartient, y est devenu la figure forte des réformes et des politiques radicales imposées par Donald Trump. Musk a entre autres participé à plusieurs campagnes visant à réduire l'aide internationale américaine à travers le monde ou à diminuer la taille de l'appareil gouvernemental, ce qui a entraîné la mise à pied de milliers de fonctionnaires. Mi-mai 2025, Elon Musk s'est également retrouvé dans le bureau ovale lors de la visite officielle du président de l'Afrique du Sud, pays natal de l'oligarque de la Silicon Valley, alors que Donald Trump y a fait la promotion d'une théorie complotiste sur un soi-disant génocide de la population blanche dans ce pays africain. Ce récit, promu par le propriétaire de la compagnie Tesla, nourrit depuis des années des courants suprémacistes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, sans pouvoir être soutenu par des faits vérifiés et vérifiables. La contribution politique d'Elon Musk, tout comme son salut nazi, servi avec conviction aux partisans de Donald Trump réunis à Washington le jour de l'intronisation du nouveau président, a fait souffler un vent critique très fort sur l'homme d'affaires comme sur ses entreprises. La politisation de l'entrepreneur a entre autres déclenché des manifestations devant les concessionnaires de la marque un peu partout aux États-Unis, ainsi que des attaques ciblant ses véhicules électriques. L'image de l'homme le plus riche du monde tuant les enfants les plus pauvres du monde n'est pas belle à voir, a résumé au début du mois Bill Gates lors d'une entrevue au Financial Times, dans laquelle cet autre milliardaire est revenu sur la contribution politique d'Elon Musk et les coupes qu'il a réussi à imposer à l'USAID, l'agence d'aide internationale américaine. Récemment, lors de son passage au Forum économique du Qatar, le président de Tesla a annoncé qu'il allait considérablement diminuer ses contributions à des partis politiques à l'avenir, estimant en avoir fait assez à ce jour. Il a investi plus de 290 millions de ses propres fonds dans la présidentielle de 2024 pour faire élire Donald Trump et les Républicains. Une contribution qui lui a permis de s'imposer comme un acteur politique majeur, autant sur la scène américaine qu'internationale. Depuis le Qatar, Elon Musk a également assuré qu'il allait rester à la tête de Tesla pour les 5 prochaines années, au moins, et ce, alors que les bénéfices de l'entreprise ont chuté de 71% au premier trimestre de 2025, comparativement à la même période un an plus tôt, a indiqué la compagnie le 22 avril dernier. C'était « Le Québec tourne massivement le dos à Tesla », un texte de Fabien Deglise paru le 22 mai 2025 dans Le Devoir.